France Culture.
France Culture, question du soir. Astrid de Villaine.
C'est un mot valise, souvent employé à tort et à travers, surtout dans l'époque actuelle. Mais qui ne serait pas si récent si l'on en croit cette somme qui vient de paraître chez Gallimard pour L'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e-21e siècle. Son auteur, notre invité du jour, bat en brèche l'idée que le populisme serait un mot à éviter, car il serait piégeux et servirait uniquement à décrédibiliser un adversaire. Il nous sert, au contraire, pour enrichir notre connaissance de la politique en France, il ferait même partie, selon lui, de la culture politique française. Des populismes d'antan, avec le général Boulanger, première expérience populiste au 19e siècle, jusqu'au néo-populisme contemporain, situé à droite, au centre et à gauche, qu'est-ce que le populisme à la française ? Quel est le terreau fertile des flambées ou des permanences populistes? Comment ces mouvements ont-ils pensé le peuple et quelle définition lui donner? Bonsoir Marc Lazare.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans Question du soir. L'idée, vous êtes professeur émérite à Sciences Po, professeur de relations franco-italiennes pour l'Europe à l'université Louis de Rome. Et c'est vous donc qui venez de faire paraître chez Gallimard cet ouvrage Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e-21e siècle.
C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez.
Mais soyez poli, monsieur. Vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait,
oui,
vous êtes poli.
Oui.
Vous avez dû apprendre à parler.
La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi.
On parle un dernier instant, la réponse de Bernard Tapie à Jean-Marie Le Pen, et on parle enfin, s'il vous plaît, de l'immigration. Avec vous deux, mais aussi avec un ensemble de représentants, ils sont sept ici, ils représentent les couches sociales les plus différentes. Vous vouliez parler du peuple, voici le peuple ici, avec des gens qui sont d'origine extrêmement diverse, des gens qui peuvent penser comme vous, vous en rendrez compte, monsieur Le Pen, d'autres qui ne pensent pas comme vous, d'autres qui pensent comme Bernard Tapie.
On vient d'entendre un extrait du débat sur l'immigration entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen en 1989, présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Et j'avais envie de vous passer cette archive, Marc Lazare, parce que au moins deux des protagonistes de cette séquence, qui est disponible entièrement sur YouTube, qui est assez longue, sont présents dans votre ouvrage sur l'histoire du populisme en France. Jean-Marie Le Pen, Bernard Tapie, mais également, là c'est Patrick Poivre d'Arvor, il aura d'ailleurs des questions assez étonnantes dans cette émission. Dites-nous pourquoi vous n'aimez pas les Arabes, dit-il à l'un des panélistes de Français qui sont censés représenter le peuple. Et vous dites très bien dans votre livre que les médias aussi ont un rôle dans ces flambées populistes ou dans ces permanences populistes, et on va bien faire la différence tout au long de cette émission pour essayer de bien comprendre et rentrer dans votre ouvrage. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Mais d'abord, Dieu sait que j'ai vu beaucoup de YouTube pour préparer ce livre, pas simplement d'avoir lu pas mal de choses, d'avoir écouté, mais j'avais pas repéré celui-ci. Merci beaucoup de ce passage. Non, c'est très intéressant parce que là, on a deux exemples de mes cas d'études de populistes. Il y a de côté Bernard Tapie, je dirais, c'est le côté météorite. C'est-à-dire que ça va pas durer longtemps, c'est ce que, effectivement, la flambée, vous l'avez bien défini, qui se présente comme un candidat issu du peuple, venu du peuple, représentant le peuple, et qui, pendant quelques années, va marquer la vie politique française, et pas simplement les activités économiques, et confronté à Jean-Marie Le Pen, qu'il veut combattre. Bernard Tapie veut le combattre, avec le soutien d'ailleurs de François Mitterrand.
Et qui est un des seuls à accepter, Patrick Poivre d'Arvor le dit très bien en introduction, il cite les mots d'excuse de tous les autres ministres responsables du RPR qui n'ont pas voulu, évidemment, aller débattre avec Jean-Marie Le Pen. C'était l'une de ses premières grandes interventions en débat.
Absolument. Et Bernard Tapie ne va pas rester longtemps. Donc, il y a un côté flambé populiste, donc plutôt marqué à gauche, même si son engagement à gauche est plus que discutable. Il va appartenir, d'ailleurs, il va rejoindre le Parti Radical à un certain moment pour une campagne aux élections européennes. Et donc, ça va passer assez rapidement. Mais c'est l'expression, justement. Alors, c'est très intéressant le cas de Tapie, parce que ça précède. Je suis vraiment désolé.
Vous avez de l'eau, prenez
J'ai de l'eau,
temps, Marc
je Lazare. Reprends.
On est avec vous.
Je m'excuse auprès des auditeurs et des auditrices. Et donc Bernard Tapie, ça précède un peu Silvio Berlusconi, c'est-à-dire un homme d'affaires, même si Silvio Berlusconi avait beaucoup plus d'affaires, qui va essayer d'entrer en politique et qui va se présenter contre le candidat, contre les politiques traditionnelles et comme l'expression d'un certain peuple. Et en face, on a Jean-Marie Le Pen. Alors là, c'est tout autre chose. C'est quelqu'un qui a commencé sa carrière politique avec les Poujadistes dont je parle dans le livre, à partir de 1956 quand il est élu, qui va avoir une longue trajectoire politique et qui, lui, s'inscrit effectivement, vous l'avez dit, dans ces permanences du populisme. Et c'est aussi deux conceptions du peuple, de représentation du peuple, deux acceptions du peuple. Et là, ce qui est frappant dans cet extrait que vous avez passé, c'est la virulence, la violence de l'affrontement. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça brise un peu le caractère policé, normal, du langage politique. Normalement, ça dépend des périodes, mais normalement, en France, comme dans d'autres pays, en démocratie, on ne s'insulte pas. Dans une des émissions qu'ils avaient faites, l'un et l'autre, je ne sais pas si c'est celle-ci, ils avaient manqué d'en venir aux mains. Donc c'est d'une violence, y compris qui se traduisait physiquement.
Avec aussi pas mal de mensonges, souvent. Vous commencez votre ouvrage par ces mots qui peuvent sembler volontairement provocateurs. En Europe, la France est le berceau du populisme et l'une de ses terres de prédilection. Vous battez donc en brèche l'idée, parfois admise, que la France en fait aurait été épargnée par la vague populiste actuellement mondiale. Au contraire, vous démontrez que nous en avons déjà fait l'expérience.
Oui, ça c'est un élément important parce que vous savez, sur le populisme, je le dis d'ailleurs dans le livre, il y a un nombre de publications considérables. On emploie à tort et à travers cette notion. Excusez-moi de dire ce que je vais dire dans les médias, sans parfois le définir véritablement le terme, des responsables politiques accusent les autres d'être populistes. Certains revendiquent au contraire d'être populistes. Et donc, je crois qu'il fallait clarifier un peu les choses et montrer justement que le populisme n'est pas récent, qu'il s'inscrit dans une histoire. Alors, dans l'histoire plus générale, il commence en Russie au 19e siècle, on a des exemples aux États-Unis, mais en France, nous avons aussi cette expérience du populisme qui naît effectivement à la fin du 19e siècle avec le général Boulanger et qui va rythmer notre histoire. Et pourquoi ça rythme notre histoire ? C'est ça qui m'a interrogé et c'est ça qui m'a questionné pour justement, comme toujours quand on fait une recherche, on parle de questions, on ne trouve pas toujours les solutions, on cherche tout le temps, mais ce que j'ai compris, c'est que la récurrence de ces phénomènes populistes en France, le général Boulanger, les ligues de l'entre-deux-guerres, le poujadisme et d'autres cas que je prends, d'autres cas d'études que je prends, démontrent qu'on a un problème avec notre démocratie. Cette histoire du populisme, c'est une façon d'éclairer d'une autre façon l'histoire de notre démocratie. Et quel est le point central de cette question démocratique ? C'est que le fait qu'en France, on a une tension permanente entre la représentation et l'incarnation de l'expression de la souveraineté populaire. Et ça date de la Révolution française. C'est cette tension permanente. Parfois, c'est résolu, et donc, il y a une relative quiétude. Et puis, pour une série de raisons, il y a d'autres moments où c'est pas résolu. Et donc, on a cette tension entre la représentation dont on se méfie et la volonté d'exprimer la souveraineté populaire.
À quel moment naît le mot populiste, Marc Lazare ? Et vous commencez au 19e siècle, est-ce que vous auriez pu remonter avant ? Et la Révolution française, vous en parlez, mais quand on prend vos critères, on va peut-être les énumérer, parfois on se dit, vous parlez des gilets jaunes, par exemple, dans les néo-populismes, est-ce que finalement on pourrait pas mettre cette étiquette aussi sur un moment de la Révolution française ?
Alors, merci de cette question, parce que c'est un sujet particulièrement épineux, notamment pour mes collègues historiens qui sont très sourcilleux et ils ont raison. Le populisme en tant que tel, Pascal Ory l'identifie, et d'ailleurs Pierre-Rosan Vallon aussi, donc je rends à César ce qui doit être rendu à César, l'identifie à partir de 1929. C'est un mot qui vient de la littérature. Il y avait un prix populiste. Un des écrivains populistes qu'on a complètement oublié s'appelle Raymond Guérin. Il a écrit un très beau roman qui s'appelle L'Apprenti, qui est édité chez Gallimard dans la collection Imaginaire. Pascal Ory va plus loin puisqu'il repère cette notion de populisme en 1905. Mais disons, au départ, c'est une formule littéraire. Moi, je l'ai utilisée en politique au risque d'un anachronisme. Et je m'en explique. Je pense qu'à partir des critères que j'avance pour définir le populisme, on peut considérer que le boulangisme a été une première expérience du populisme. En plus, il y a un livre absolument remarquable sur le boulangisme que j'ai utilisé, qui est d'un historien, Bertrand Joly, qui a fait un travail, une somme fondamentale sur le boulangisme. Donc oui, le boulangisme peut être le berceau, de ce point de vue-là, du populisme en France, mais vous avez raison, on peut dire qu'au moment de la Révolution française, si on réfléchit sur cette tension entre représentation et expression de la souveraineté populaire, il y a un homme que je cite à deux reprises dans le livre, c'est Robespierre. Et Robespierre, très rapidement, dès 1793, va mettre en accusation les Girondins en leur expliquant qu'ils ont été choisis pour représenter le peuple, mais que s'ils s'éloignent du peuple, ils vont être soumis à la critique radicale du peuple. Et donc, on a cette tension qui est, à mon sens, assez originale en France. Encore une fois, je le répète, cette tension entre la nécessité de trouver une forme de représentation en politique et cette volonté de respecter l'expression de la souveraineté populaire.
Tout ce que les Français m'ont dit, j'ai voulu l'écrire. Ça fait plusieurs années que je suis engagé dans la vie politique, un peu plus de 10 ans. Et au gré des campagnes électorales, je regarde ce divorce entre le monde politique et la vraie vie, la vie des Français, entre ce que pensent beaucoup de nos compatriotes. Et j'ai le sentiment que cette France qui est travailleuse, cette France qui se lève tôt, cette France des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des restaurateurs, des magistrats, des policiers, des militaires, toute cette France qui fait tenir notre pays debout, eh bien très souvent les dirigeants politiques l'entendent mais ne l'écoutent pas. Eh bien moi j'ai voulu lui donner la parole avec ce livre et donc je recueille dans cet ouvrage toutes les confidences que me font les Français avec beaucoup de simplicité, beaucoup de sincérité et j'ai voulu donner la parole à cette France-là.
On vient d'entendre Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, sur France 2, au journal télévisé de 20h, le 30 octobre 2025, à l'occasion de la parution de son livre « Ce que veulent les Français ». Est-ce que là, en entendant ces mots, vous diriez qu'on est dans le populisme ? Souvent, vous dites qu'il y a un invariant, c'est le bon sens en appeler au peuple. Et là, on va rentrer aussi dans votre définition du populisme, Marc Lazar, que vous mettez un livre entier à exprimer, mais qui, si j'ai bien compris, en fait, est en appeler au peuple tout en le divisant.
Exactement. Alors, là, c'est très intéressant ce que dit Jordan Bardella, et merci encore d'avoir choisi cet extrait. Je n'ai pas encore lu son livre, et je le lirai.
Il fait le portrait de 20 Français, un pêcheur, une magistrate, voilà.
Et j'ai lu son autobiographie, comme j'ai lu l'autobiographie de Marine Le Pen et beaucoup d'autres ouvrages, y compris ceux de Mélenchon, par exemple, où il raconte beaucoup de choses sur le populisme. Là, c'est très intéressant parce qu'on voit l'opposition entre ce que Maurras avait appelé pays réel et pays légal, qu'on reprend de plus en plus, et c'est cette idée que justement les politiques n'écoutent pas le peuple, mais non seulement Jordan Bardella, semble-t-il, recueille la parole du peuple, mais il prétend incarner le peuple. Parce que faire appel à la souveraineté du peuple en tant que tel, ce n'est pas populiste, mais en permanence opposer le peuple aux responsables politiques, là c'est une des formes du populisme. Alors quelle définition donner de ce mot qu'on n'arrête pas d'employer ? Moi j'ai trois critères, j'ai trois acceptions de la définition que je résume très simplement. D'un côté c'est une part d'idéologie, il y a une forme un peu d'idéologie, une idéologie labile, une idéologie très souple, car le populisme aussi est très pragmatique. Et cette idéologie c'est l'idée qu'il y aurait dorénavant une opposition entre le peuple justement, qui a le bon sens, qui a une porteur de vérité par lui-même, en tant que tel, par rapport à un groupe d'élites corrompues qui font semblant d'avoir des différences, mais qui en fait sont d'accord entre elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur toutes les expériences populistes que j'étudie. Le deuxième élément, c'est le fait que le populisme est une stratégie et un style, c'est-à-dire pour des acteurs politiques ou des partis politiques, de recourir à des formes de simplification, de démagogie, de yaka, et la formule yaka faire ça, pour essayer de conquérir le pouvoir et éventuellement de le gérer. Pour le moment en France, à part l'expérience très particulière de Vichy, nous n'avons pas encore connu l'expérience de populiste au pouvoir. Ça arrivera peut-être en 2027. Et puis la troisième chose, beaucoup plus complexe, mais en même temps qui possède une part de vérité, c'est l'idée, inspirée d'un chercheur chilien qui s'appelle Pierre Orstigui, que le populisme serait aussi l'expression d'une forme de culture du bas. Alors attention, on sait très bien que la culture populaire n'est pas complètement séparée de la culture dite des dominants, mais il y a quelque chose qui s'exprime là par l'intermédiaire du vécu, de sensibilité qui serait largement partagée par le peuple contre l'attitude de la culture des dominants. Donc, à partir de ces trois notions, moi j'essaye, cas par cas, de voir si on peut définir le populisme dans le cas français. J'en distingue deux catégories, je m'arrête là. D'un côté, le populisme intégral, ceux qui sont le plus proches de cette définition, alors avec à chaque fois des petites nuances. Et puis deuxièmement, des populismes intermittents, c'est-à-dire qui sont parfois l'expression de gens qui se disent non populistes, mais qui recourent à un tout petit peu d'idéologie, un tout petit peu de stratégie et de style, voire un tout petit peu de cette culture du bas. Voilà les deux distinctions que je fais et qu'on peut décliner ensuite cas par cas.
Oui, qui sont encore plus détaillées dans ce livre Pour l'amour du peuple chez Gallimard. Quelle différence peut-on faire entre populisme et extrémisme ?
Alors, c'est aussi une très bonne question parce que, en général, le populisme a une forme d'extrémisme. Incontestablement, ça a été le cas du général Boulanger, ça a été le cas des ligues dans l'entre-deux-guerres, ça a été le cas de Poujade, qui est devenu un néologisme d'ailleurs, poujadisme, et qu'on emploie encore aujourd'hui, c'est-à-dire cette révolte fiscale qui commence en 1953, qui se politise ensuite, et qui oppose justement les gens qui ont du bon sens contre, alors il y a aussi un aspect dans tout populisme en général, l'anti-intellectualisme, tout populisme, sauf le populisme de Jean-Luc Mélenchon. Sauf le populisme de Jean-Luc Mélenchon. Au contraire. Donc, vous voyez, à chaque fois, il faut être très prudent. Mais il y a une tendance à l'extrémisme au populisme. Ça me semble incontestable, avec une contestation des formes classiques de la vie politique. Parfois, le recours à la violence. Ça peut être une violence symbolique ou une violence réelle. Mais aussi, un problème quand les populistes veulent s'approcher du pouvoir, et on le voit très bien actuellement du côté du Rassemblement National, une forme de relative modération pour essayer de conquérir encore plus d'électeurs. Et donc, ça ouvre une tension au populisme. C'est une des tensions. Et c'est là la complexité que j'essaye d'éclairer, parce que le populisme est à la fois dans cette idée le peuple contre les élites, mais en France, à cause de la prégnance du clivage gauche-droite, et qui reste encore, les cultures politiques ont des durées de vie plus longues que les partis qui créent ces cultures, eh bien, on a des populistes qui se situent plutôt à gauche et à droite. Mais si vous avez des populismes qui plutôt à droite et plutôt à gauche, par exemple dans les néo-populismes contemporains, la France insoumise à gauche, le Rassemblement national à droite, eh bien, ils ont une tension entre « on est le peuple » contre l'oligarchie, dit actuellement LFI, la France insoumise, et en même temps, nous sommes de gauche, dans ce qui reconnaît qu'une partie du peuple est à droite. Donc, il y a une tension permanente dans ce populisme.
Il y a aussi donc le dégagisme hein, parmi les critères. Alors, à chaque fois, vos critères, c'est ça qui est très complexe et en même temps très intéressant. Marc Lazare, tout le monde ne coche pas tous les critères. C'est ça qui est particulièrement complexe.
Ben, oui, c'est ça. Pardon.
Allez-y.
C'est ça. Merci là aussi de faire référence à cela, parce que je crois que dans certaines études, on est un peu trop généraliste dans le populisme. Et donc, à chaque cas d'étude, j'essaye de montrer à la fois les points communs et les différences. Oui, le dégagisme, ça c'est un élément général. Sortez les sortants, disaient les poujadistes par exemple.
Mais disait aussi Emmanuel Macron, et vous en parlez en 2017, là-dessus il coche une case.
Il se présente comme anti-système, on va les mettre dehors, et puis de toute façon tous ces partis ça sert à rien, d'ailleurs on l'a bien vu, il n'a pas créé son parti véritablement. Les corps intermédiaires, ça ne sert à rien, ils ne défendent que leurs propres intérêts, donc il y a aussi le rapport direct hein, du leader avec le peuple. Ça, c'est un élément important. Effectivement, il faut dégager les anciennes élites. Oui, il y a des phrases terribles dans le livre qu'écrit Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs, qui s'appelle « Révolution », qui est publié en 2017 au moment de sa campagne électorale. Et le dégagisme, voyez-vous, Astrid, il se manifeste par un instrument, je n'avais pas fait attention, c'est un instrument extraordinaire, c'est le balai. Le balai, on le trouve chez Boulanger, du balai, hein, mais on le retrouve aussi à l'époque des Ligues, on le retrouve aussi à l'époque de Poujade, on le retrouve chez Jean-Luc Mélenchon,
dans
on le retrouve ressemblant.
Pardon ? Dans aussi les mouvements populistes d'Amérique latine,
alors,
certes.
Le mouvement populiste latino-américain, oui, sauf que maintenant, on a Milei qui lui a inventé l'instrument, le balai moderne, qui serait la tronçonneuse. Voilà. Et c'est très intéressant, je me permets de faire quelques lignes à ce propos dans le livre, parce que ça m'a beaucoup marqué cette idée que le balai est un des instruments, enfin, est symboliquement un élément du populisme en France.
Ce qui est très intéressant, c'est que en fait, si on tire votre fil, on peut voir du populisme chez certains et à certains endroits du monde et à certaines époques. Vous parlez aussi du gouvernement des juges, ceux qui renvoient la justice contre le peuple, Marine Le Pen pendant sa condamnation, mais dans ce cas, on pourrait sans doute mettre François Fillon au moment de son affaire en 2017. Chirac, à un moment, quand il dit le bruit et l'odeur, vous le mettez dans la catégorie populiste. De Gaulle, on sent, y échappe, vous lui avez consacré quelques lignes, y échappe de justesse, mais ce rapport avec le peuple, on pourrait peut-être, vous ne le faites pas, mais vous voyez, on a l'impression que personne n'y échappe, en fait.
Alors, ça pourrait être une très bonne critique du bouquin. Je vous le dis très franchement, elle est manifestement subliminale dans votre propos. Oui, parce qu'on pourrait me dire, mais alors, dans ce cas-là, tout est populiste et donc il n'y a pas de populiste. Non, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a des moments, il y a des périodes. Et donc, il y a des moments de flambée, effectivement. Il y a des populistes intégraux, il y a des populistes intermittents. Mais il y a aussi des longues périodes où, justement, le populisme n'existe pas. Prenons des exemples très concrets et relativement récents. De 1958, c'est-à-dire au moment de la fondation de la Ve République, jusqu'aux années, fin des années 60, il y a globalement des partis politiques, quoi qu'en disait le général de Gaulle, et il n'y a pas une expression du populisme. Donc on a des périodes où il y a une relative, quiétude dans notre démocratie. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de confiance dans les représentants politiques à travers les partis qui sont au gouvernement ou à l'opposition. On vote massivement. Il y a une période de confiance. Il y a une situation économique et sociale, bien sûr, il y a toujours des problèmes, mais plutôt favorable. Et il y a aussi une dimension, ce que j'appelle la dimension culturelle, dans laquelle il y a des réponses par rapport aux interrogations des Français. Et puis, il y a des moments, au contraire, où justement le populisme prend le devant. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'étudier. Attention, quand ce populisme intermittent, le cas de Chirac, le cas de François Fillon, c'est des petits moments parce que, effectivement, j'emploie une expression, le populisme, il est comme la liane autour de l'arbre. Il est présent toujours dans notre démocratie française. Et donc, il y a des moments où on ne le voit pas, et puis il y a des moments de résurgence, il y a des moments où il explose, il y a des moments où il redisparaît. Et c'est cette fluctuation que j'ai essayé de reconstituer dans cette histoire du populisme.
Est-ce que l'émergence des populismes, Marc Lazare, va de pair avec un effondrement des partis traditionnels, notamment en raison d'une certaine déconnexion de leur part? Et j'aime beaucoup aussi quand vous citez aussi tous les terreaux fertiles, un niveau de vie qui baisse, un contexte extérieur, la mondialisation ou autre, qui peut être très angoissant. Vous y faisiez référence, ces difficultés aussi identitaires ou culturelles à se retrouver, à s'enraciner.
Oui, exactement. C'est que j'ai essayé de comprendre quelles étaient les raisons pour lesquelles, à certains moments, justement, il y a cette surexposition des populistes, il y a cette présence très forte des populismes. Encore une fois, les populismes les plus intégraux, ou alors les moments d'intermittence des populistes. Et c'est exactement les périodes, enfin la causalité que vous avez indiquée. D'abord, la question de la défiance politique. Oui, il y a des moments où il y a des fortes défiances. Ça a été le cas du général Boulanger au moment où la Troisième République s'instaurait, où il y a des gros moments de corruption qui sont révélés. Donc il y a une défiance assez forte, on le retrouve aussi dans les années 30, un petit peu à la fin des années 50 avec le poujadisme, et puis bien sûr aujourd'hui. Et puis il y a très souvent la question socio-économique, c'est-à-dire des moments de très grand chômage, des moments de grande interrogation, de difficultés sociales, et puis effectivement ces moments où il y a une grande interrogation culturelle et identitaire. Qui sommes-nous? Où en est la France? Pourquoi la France est-elle peut-être en déclin? Pourquoi aussi des événements internationaux se répercutent en France dans les années 30, le fascisme, le nazisme, le communisme qui se répercutent directement en France. Et puis bien sûr, dans le néo-populisme contemporain, cette transformation fondamentale qui est le processus de globalisation avec ses effets délétères et destructeurs des cadres sociaux dans notre pays.
Pour qu'on ait le droit à la vraie démocratie participative, celle qui fera de nous des hommes plus libres et qu'on vive pour l'essentiel, et qu'on remette en place les fondamentaux d'antan, et qu'on disparue peu à peu avec les successions de gouvernements et tout ça. Donc voilà, on veut un retour aux vraies valeurs, et c'est pour ça, par le biais du RIC, on espère y arriver.
Alors, on vient d'entendre un des représentants, enfin, si ce n'est, il n'y a pas vraiment de représentant, un gilet jaune, diffusé par le Média. Le Média, c'était le 18 décembre 2018. Alors les gilets jaunes, c'est vrai que ça peut surprendre. D'ailleurs, vous les mettez un peu à part, Marc Lazare. Vous dites que ils sont, comme ils n'ont pas de représentants, ce n'est pas assumé par un parti. Ils sont à part, mais vous les mettez quand même dans les néo-populistes parce qu'ils représenteraient le peuple.
Et ce que j'appelle un populisme sociétal. Alors attention, dans ce chapitre, j'insiste sur le fait que le mouvement du gilet jaune est un important mouvement social, qui
populaire,
est l'expression très populaire, l'expression d'un désarroi, d'une souffrance sociale. C'est absolument fondamental de partir de cet premier élément. Mais ce qui m'a beaucoup interpellé, y compris dans tous les travaux qui ont été consacrés au gilet jaune, c'est cette formule qui était présente parmi les manifestants, c'était « Nous sommes le peuple » et écrite sur leur gilet. C'est pour ça que j'ai fait une étude à partir de photos qui ont été publiées sur qu'est-ce qu'ils écrivaient, ces gilets jaunes, et qu'est-ce qu'était leur conception du peuple. Et ce qu'ils disent, effectivement, c'est « Nous sommes le peuple contre une minorité », notamment, il y a une cible, hein, c'est Emmanuel Macron et accessoirement Brigitte Macron aussi. Et ça, c'est l'idée, on l'a entendu dans le RIC, c'est qu'aujourd'hui, ces mouvements populistes, c'est la revendication de plus de démocratie. Ça, c'est la différence avec les populismes d'antan. Les populismes d'antan, très souvent, quand c'était des partis, des mouvements, des leaders, voulaient instaurer un régime d'autorité. Aujourd'hui, la forme des expression du populisme, elle est à la fois antipolitique, contre cette politique, contre ces partis, parce qu'ils sont affaiblis, parce qu'ils sont corrompus, parce qu'ils sont loin de nous. Et en même temps, c'est très politique. C'est-à-dire, nous voulons aussi une forme de nouvelle démocratie, une démocratie plus participative. Et les Gilets jaunes ont inventé quelque chose, le RIC, référendum d'initiative citoyenne.
En tout cas, ils l'ont mis en avant, en effet, qui était aussi présent sur beaucoup de pancartes. On ne peut pas refermer cette émission sans parler de ce qui est central, et vous l'avez dit en introduction, Marc Lazare, la différence, la tension entre la démocratie représentative et la démocratie directe.
Oui, absolument. Et je crois que c'est quelque chose qui travaille en profondeur et sur le long terme, la longue durée, la démocratie française. Mais aujourd'hui, ce qui a comme remède à cela, parce que la démocratie directe, c'est la volonté de substituer à la démocratie libérale et représentative des formes justement de démocratie directe. L'autre idée qui se développe, qui a été développée par beaucoup d'autres collègues, c'est l'idée de la démocratie participative. Pour résoudre cette question du populisme aujourd'hui, si elle doit être résolue, puisque nous avons quand même le Rassemblement national, Éric Zemmour, la France insoumise dans les cas les plus récents, c'est de répondre aux causalités qui ont fait émerger ça. Le populisme, ce n'est pas le problème, il surgit du problème de la démocratie.
Et on peut lire tout ça dans votre dernier livre paru chez Gallimard, Marc Lazare, Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e, 21e siècle. J'aurais aimé vous demander pourquoi ce titre, mais j'ai peur qu'on n'ait plus beaucoup de temps.
Ben non, c'est parce que tous ces populistes déclarent leur amour fou pour le peuple.
Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Questions du soir, Marc Lazare. Et merci infiniment à l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Bruno Barada, Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Audrey Carme et Rodi Eken à la réalisation. Ce soir, il y avait Léa Racine. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture et l'application Radio France. Merci de nous avoir suivis. À demain, 18h20.